Bonjour à tous, tapis rouge pour l'empereur rouge. Le président chinois arrive en France, Xi Jinping en délicatesse avec les États-Unis se cherche des alliés européens. Éric Delvaux, vous évoquerez cette visite avec votre invité dans 20 minutes.
Oui, le sinologue historien François Godemans, son dernier livre, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, c'est paru chez Odile Jacob.
Des centaines de milliers de personnes hier à Londres pour la marche anti-Brexit venue de tout le Royaume-Uni. Elle demande un nouveau référendum pour rester dans l'Union européenne. Pas de violence majeure hier dans les manifestations de gilets jaunes, rien à voir avec les exactions de la semaine dernière. À Toulouse, certains ont tout de même pénétré sur la place du Capitole qui leur était interdite. La Bibliothèque nationale de France en chantier à Paris, l'historique bâtiment Richelieu se refait une beauté. Visite privée d'une restauration à 240 millions d'euros. 8h10, le journal des sports de Laetitia Bernard, Julian Alaphilippe vainqueur de Milan-San Remo. Clermont s'impose en top 14 et Olivier Giroud nous parle de son avenir.
France Inter.
Quand l'empire du milieu se rapproche de la vieille Europe, Xi Jinping, le président chinois, est en visite d'État en France. 55 ans après la reconnaissance de la Chine de Mao par la France de De Gaulle. Hier, il était en Italie pour signer un accord sur les nouvelles routes de la soie. Il passe par Monaco en début de journée. Monaco qui a choisi Huawei pour son réseau 5G. Puis Xi Jinping dînera avec le couple Macron ce soir à la Villa Kérilos, près de Nice, avant de dormir au Negresco. Dominique André, vous êtes à Pékin. Le président chinois se cherche des alliés en Europe.
Une guerre commerciale sino-américaine qui dure, de mauvaises relations avec Washington, un ralentissement de la croissance économique en Chine, la situation au Xinjiang ont dégradé l'image de Xi Jinping. La signature de l'Italie avec les routes de la soie est importante pour sa réputation en Chine, où Xi Jinping est critiqué, y compris dans son parti. À l'international, le président chinois a besoin de soutien, en particulier à Bruxelles. Or, l'Europe, pour Xi Jinping, c'est d'abord Emmanuel Macron, souligne Philippe Lecor, chercheur à l'université de Harvard.
Je crois qu'effectivement, Xi Jinping, sur le plan international, souffre d'un déficit d'image. Il est clair que Xi Jinping a en ce moment une difficulté avec les États-Unis et donc la Chine a besoin de trouver des amis.
Qu'est-ce que Xi Jinping attend d'Emmanuel Macron ?
Il attend un peu de réconfort et un peu de leadership de la part du président du G7, d'un membre clé de l'Union européenne. Puis Emmanuel Macron est un des rares leaders qui a été élu pour 5 ans, qui peut servir d'interlocuteur à Xi Jinping. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'alternatives.
Le président chinois essaiera sans doute de rassurer durant sa visite en France, mais il semble clair que désormais, de simples déclarations de Xi Jinping ne suffiront pas à dissiper les inquiétudes. Pékin, Dominique André, France Inter.
Oui, avant-hier à Bruxelles, Emmanuel Macron a déclaré que le temps de la naïveté européenne était révolu dans les relations avec la Chine.
Une marche pour l'Union européenne, et ces temps-ci, ce n'est pas si fréquent.
Oui, alors que les eurosceptiques ont le vent en poupe un peu partout, manifestation pro-européenne hier et pas n'importe où au pays du Brexit, à Londres. Entre 700 000 et 1 million de Britanniques ont défilé entre Hyde Park et Westminster, des politiques connus comme des anonymes. Tous demandent un nouveau référendum, avec l'espoir que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne alors que le Brexit est reporté au 12 avril. Parmi les manifestants, Sophie, elle envisage même de quitter son pays si le Brexit se réalise.
Je me sens moi-même très européenne. Mes enfants aussi, cela fait partie de mon identité et j'ai l'impression qu'on nous prive de nos droits européens. Si le Brexit passe, nous envisagerons de déménager dans un autre pays européen. Si nous n'organisons pas un deuxième référendum et que nous ne retournons pas dans l'Union, je crains vraiment pour l'avenir du pays.
Reportage à Londres de Marina Daraz dans un cortège sans la moindre bousculade et avec un dispositif policiers très légers. Un massacre au Mali. Plus d'une centaine de Peuls ont été tués dans leur village hier à la frontière avec le Burkina Faso, sans doute par des miliciens Dogon. Outre ces conflits ethniques, les djihadistes continuent de sévir au Mali. En Syrie, après la défaite militaire de Daesh, le secrétaire d'État américain se veut prudent. Il reste beaucoup de travail avant que le terrorisme islamique radical soit définitivement annihilé, écrit Mike Pompeo.
Un moment de panique hier soir à Disneyland Paris.
Oui, vers vers 22h à un tapis roulant défectueux s'est grippé et ses engrenages ont fait des bruits qui ressemblaient à des explosions. Panique dans la foule qui a cru à un attentat. Des dizaines de personnes ont été confinées. Il y a eu quelques blessés légers dans ce mouvement de foule. Les Gilets jaunes, 19e samedi de mobilisation. Hier, un peu plus de 40 000 personnes en France, selon l'Intérieur, 5 000 à Paris et beaucoup moins de violence dans la capitale. Quelques incidents toutefois à Montpellier, Nice ou Bordeaux. Selon Christophe Castaner, 233 personnes ont été interpellées en France, dont la moitié verbalisées, car elles ont participé à des manifestations interdites comme à Toulouse, Théo Cobel.
Peu importe le risque d'une contravention de 135 euros ou de l'interdiction d'accéder à la place du Capitole, il fallait être présent pour Émilie.
La surenchère sécuritaire qui fait, en fait, ça donne encore plus envie d'être là juste pour montrer qu'on n'a pas peur.
D'ailleurs, ils étaient encore plusieurs milliers hier dans les rues de Toulouse, un cortège parti dans une ambiance bon enfant mais qui a vite rencontré les forces de l'ordre. Et pour Bernard, c'est le sentiment que finalement tout le centre-ville était bouclé.
On s'est aperçu que c'était pas que la place du Capitole qui était interdite, mais toutes les rues de Toulouse, puisque au bout de même pas une demi-heure de manifestation, on a été dispersé par des grenades lacrymogènes alors qu'il n'y a eu aucune agression de la part des Gilets jaunes. C'est pas que c'est démesuré, c'est clairement une volonté du gouvernement de casser un mouvement social par de la répression brutale et policière.
Toute l'après-midi, les manifestants ont joué au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre en tentant de se retrouver à chaque fois qu'ils étaient dispersés. Vers 18h, un petit groupe est arrivé à braver l'interdit et est entré place du Capitole, un pied de nez aux autorités pour Eric.
C'était pas spécialement un objectif. C'est honteux, on est français, vous me voyez, je suis avec ma fille, je casse personne, je casse rien du tout. Mais la place du Capitole, c'est moi qui paye pour tout ça. Donc je viens quand je veux et habillé comme je veux.
Et les Gilets jaunes le promettent, peu importe les futures interdictions, ils seront dans les rues de Toulouse le week-end prochain.
Je vous parlais de friction à Nice. Eh bien, la famille d'une femme de 74 ans blessée après une charge policière va porter plainte. Plainte pour violence volontaire en réunion avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Nous entendrons son avocat à 9h. Et histoire de redorer l'image de leur mouvement, des Gilets jaunes picards ont manifesté hier en nettoyant les bords d'une route départementale. Cela s'est passé près de Flixecourt dans la Somme. Comment nettoyer nos océans des plastiques, ces bâches, ces bouteilles, ces couverts qui salissent les plages, étouffent les animaux et polluent les eaux? La fondation Surfrider donne rendez-vous à partir de 13h30 au métro Stalingrad à Paris. Alors c'est loin de l'océan, vous me direz, mais sachez que les déchets jetés dans le canal Saint-Martin par exemple, ces déchets finissent par redescendre vers la mer. Explication de Sophia Nadine de Surfrider.
Le combat à mener, il est partout. Il n'est pas uniquement sur les villes côtières. Il est finalement même en priorité dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, qui sont le départ en fait de cette pollution, puisque 80% des déchets proviennent de l'intérieur des terres, ce qui signifie que une bouteille plastique qui sort d'une poubelle à Paris, qui finit dans la rivière, qui ensuite, à cause des pluies et du vent, évidemment, finissent dans l'océan et puis ensuite termine sur les plages, finalement nous laisse penser qu'on a un grand rôle à jouer, surtout à l'intérieur des villes, pour éviter cette pollution de finir en bout de chaîne sur les plages et dans l'océan. Donc du coup, c'est une double nécessité en fait. Premièrement, d'aller nettoyer en fait tout cet environnement et enlever cette pollution plastique. Et puis c'est une nécessité dans le process de prendre conscience de l'ampleur du problème. La porte d'entrée à cet engagement peut être une collecte de déchets.
Sofiane Adine de Surfrider, il était au micro de Laurence Méride.
Gros plan à présent sur un trésor en cours de rénovation à Paris.
La Bibliothèque Nationale de France, rue Richelieu, près du Palais Royal, un joyau architectural. Le chantier doit durer encore 2 ans. 60 000 mètres carrés à restaurer pour 240 millions d'euros. À terme, la BNF aura son musée et un beau jardin. Ilana Moriousef, vous avez pu visiter le chantier.
À l'entrée du chantier, casque obligatoire pour tout le monde. Et disons-le, il faut pas mal d'imagination pour se représenter, derrière les échafaudages, la splendeur bientôt retrouvée du bâtiment. Alexandre Pernin, chef de projet.
On est ici dans la galerie Mazarine, donc qui est classée au titre des monuments historiques, en plein cœur du quadrilatère Richelieu, qui sera un des espaces du futur musée de la BNF. Un espace qui est tout à fait magnifique parce qu'on a des fresques de Romanelli faites au milieu du XVIIe siècle.
Ces fresques, justement, ont été fortement endommagées par les restaurations faites au XIXe siècle et en 1978 avec des matériaux peu adaptés. La restauratrice Alix Laveau.
C'est une purge de tous ces matériaux qui ont imprégné une voûte très abîmée et la galerie était dans un état assez pitoyable.
Dans la salle ovale, le plafond est nettoyé et repassé à la feuille d'or. La BNF fait peau neuve. Sa présidente, Laurence Angel.
J'utilise volontiers deux termes. D'abord celui de renaissance, parce que c'est un sublime bâtiment qui va littéralement renaître pour le grand public. Et second terme important, l'ouverture. On veut ouvrir cet espace à travers une salle de lecture, la salle ovale justement, qui deviendra une salle ouverte à tous, à travers un musée.
Et aussi un jardin dont la restauration sera confiée à un artiste pas encore choisi.
Reportage d'Ilana Moriousef. Sa vie était un roman d'espionnage. Rafi Eitan, son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet ancien agent du Mossad avait dirigé le commando qui avait enlevé Eichmann à Buenos Aires en 1960, un maître espion. Rafi Eitan avait 92 ans.
C'était le journal de Frédéric Mettezo.